Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons fini de creuser la carie et le dentiste va pouvoir remettre les choses dans l'ordre, combler le trou et faire que nous nous sentions mieux. Pour le dire autrement, nous étions tombés, descendus jusque dans les ténèbres de notre pauvreté, de notre indigence, et nous allons nous tourner en vain vers le soleil radieux de notre vie, le Christ. Mais pour ne pas être trop illuminés après, au moment où nous sortons des ténèbres, nous allons d'abord regarder celle qui reflète la lumière trop vive du Christ, la Vierge Marie, qui, comme la lune, nous reflète une douce lumière qui vient du Christ et qui nous aide à entrer dans son mystère. Cette semaine que nous allons vivre maintenant est consacrée à mieux connaître la Vierge Marie, pour mieux comprendre quelle est la place que Dieu lui donne dans son plan de salut. Ainsi, nous pourrons la situer plus précisément dans notre chemin spirituel pour lui donner toute sa place et rien que sa place. Les jours de cette semaine suivent donc Notre-Dame dans ses mystères et sa relation aux personnes de la Sainte Trinité. Ils en décrivent en même temps les conséquences pour notre vie spirituelle en relation avec elle. Le programme de ces jours comprend notamment la lecture des écrits de Saint Louis-Marie concernant directement la Vierge Marie. Pour la version longue, ceux qui font la totale, c'est donc que vous lirez tout le traité de la vraie dévotion, plus le secret de Marie. Pour ceux qui ont moins le temps, dans la version brève, vous lirez tout le secret de Marie, qui est en fait un résumé, un condensé du traité de la vraie dévotion. Ceci dit, après la consécration, je ne saurais trop vous conseiller de lire à petite dose le traité de la vraie dévotion qui est plus complet et qui pourra vous entretenir dans cet esprit de la vraie dévotion du Père de Montfort. C'est sans doute la partie la plus connue du message du Père de Montfort, mais attention, c'est aussi celle qui est le plus caricaturée et parfois déformée. Donc il faut aller aux sources. La pleine révélation de la personne de Marie et de sa mission ne sont dévoilées qu'en ce temps de l'Esprit-Saint que nous vivons. Le mystère de Marie est très intimement lié à la mission de l'Esprit, comme le souligne si fortement Saint Louis-Marie à bien des reprises dans ses œuvres. C'est en Marie que l'Esprit, envoyé par son Fils, déploie ses plus beaux fruits et enracine les plus belles vertus. Ainsi, l'âge de l'Esprit-Saint que nous vivons est aussi celui de Marie. Non seulement l'Esprit-Saint nous la donne comme modèle totalement abouti de foi, d'espérance, de charité, mais il lui communique toutes ses faveurs pour qu'elle les distribue à tous ses enfants. En somme, elle continue de nous donner Jésus comme au jour de Noël et comme au jour du Golgotha. C'est par Marie, dit Saint Louis-Marie, que le salut du monde a commencé. Et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignassent de la vérité en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle, à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur. Ce qui est si vrai que saint Denis l'Aréopagite nous a laissé par écrit que quand il la vit, il l'aurait prise pour une divinité à cause de ses charmes secrets et de sa beauté incomparable, si la foi dans laquelle il était bien confirmé ne lui avait appris le contraire. Mais dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile ne subsistent plus. Voilà, l'âge de l'Esprit-Saint, c'est aussi l'âge de Marie. Et plus nous découvrons Marie, nous le verrons, plus alors nous accueillerons l'Esprit-Saint avec force. Premièrement, Marie dans le plan de Dieu. D'abord, Marie est une créature admirable. Le Père de Montfort resitue toujours la Vierge Marie dans le plan divin de salut. Pour comprendre quel rôle elle tient, il faut d'abord considérer ce que Dieu a fait en la créant et quelle place il lui donne dans sa création. Voilà ce qu'il dit dans le traité de la vraie dévotion. Enfin, le temps marqué pour la rédemption des hommes étant arrivé, la sagesse éternelle se fit elle-même une maison, une demeure digne d'elle. Elle créa et forma la divine Marie dans le sein de Sainte Anne avec plus de plaisir qu'elle n'avait pris en créant l'univers. Il est impossible d'exprimer d'un côté les ineffables communications de la très sainte Trinité à cette belle créature et de l'autre la fidélité avec laquelle elle correspondit aux grâces de son Créateur. Vous voyez, deux aspects. D'abord, contempler la Vierge Marie dans le mystère de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu a voulu en Marie? Qu'est-ce qu'il projette sur Marie? Et après, contempler dans un deuxième temps comment la Vierge Marie répond avec un cœur extraordinairement généreux, une pureté angélique, à cet appel du Seigneur. On a déjà vu l'amour de Dieu pour sa créature humaine et comment il ne se résout pas à la voir s'enfoncer dans le péché. Vous vous souvenez la semaine dernière. En Marie, Dieu crée son chef-d'œuvre. Tout ce que l'homme ne pouvait plus recevoir après le péché, tout ce que Dieu aurait voulu lui donner ne pouvait être déversé dans son cœur. On a l'impression que le Seigneur est tout à la joie de déverser le trop-plein de ses grâces dans l'âme de Marie. Comme si Dieu s'était privé depuis le péché des hommes de pouvoir déverser en abondance tous les trésors de grâce qu'il avait prévus pour l'être humain. Mais à cause de notre péché, nous nous empêchons d'accueillir tout ce que le bon Dieu veut nous donner. Et là, le Seigneur a cette créature extraordinaire, l'Immaculée, en qui il se complaît, en qui il veut habiter, en qui il veut tout donner. Toutes ses grâces, tous ses trésors, toutes ses vertus. Le torrent impétueux de la bonté infinie de Dieu, arrêté violemment par les péchés des hommes depuis le commencement du monde, se décharge avec impétuosité et en plénitude dans le cœur de Marie. La sagesse éternelle lui donne toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants, s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçues de sa libéralité. Enfin, toute la plénitude de la divinité, dit un saint, se répand en Marie autant qu'une pure créature en est capable. Ô Marie, ô chef-d'œuvre du Très-Haut, ô miracle de la sagesse éternelle, ô prodige de la toute-puissance, ô abîme de la grâce, il n'y a, je l'avoue avec tous les saints, il n'y a que celui qui vous a créé qui connaisse la hauteur, l'étendue, et la profondeur des grâces qu'il vous a faites. Marie est une créature admirable, mais elle est aussi une créature élue, choisie par Dieu. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. Marie demeure bien une créature. Il faut prendre garde de ne pas la situer en dehors de l'humanité créée et au même niveau que le Seigneur. Elle n'est pas une sorte, excusez-moi, de déesse hors sol. Elle est bien de notre humanité concrète, avec les mêmes préoccupations. Il y a entre Marie et Dieu, pour le dire autrement, un abîme métaphysique, comme il y a entre toute créature et son Créateur, tel que Dieu l'avait prévu pour toutes les créatures, quelles qu'elles soient. J'avoue, dit le Père de Montfort, avec toute l'Église, que Marie, n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout. C'est fort quand même, le Père de Montfort dit ça de la Sainte Vierge, elle n'est rien du tout, en comparaison à Dieu. Important. Puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent, ce grand Seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n'a pas eu, ni n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge pour l'accomplissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Là encore, vous voyez, Ce contraste est important. Comme nous avons eu ce contraste entre notre pauvreté, notre indigence et la miséricorde infinie de Dieu qui nous rejoint. Et là encore, le Père Montfort souligne ce contraste entre Marie qui n'est qu'une créature, certes la plus belle, certes la plus extraordinaire, certes la plus merveilleuse, mais une créature. Et en face du Créateur, il y a toujours cet abîme extraordinaire. Mais justement, c'est mieux mesurer aussi ce plan extraordinaire d'amour, cette délicatesse de Dieu pour cette petite créature qu'est la Vierge Marie. Comment Dieu a suspendu tout son plan d'amour, tout le salut pour l'humanité entière, au oui de Notre-Dame, petite jeune fille de Nazareth. Dieu lui donne une place unique dans la création. Elle est l'Immaculée Conception. Et dans son plan divin de salut, parce qu'elle est aussi la mère de Dieu. Ce que Dieu fait, il ne le reprend pas. Cette action divine pour Marie est définitive. Il y a un beau mot dans le texte de l'Annonciation, comblée de grâce, vous vous souvenez ? Pleine de grâce, la Vierge Marie. Beau mot grec, ke charitomene, qui est un mot du passé, c'est une action du passé accomplie définitivement par Dieu, ce sens-là. Elle est pleine de grâce, quelque chose qu'elle a reçu de Dieu dans le passé, eh bien on le sait, dès au moment de sa conception, et c'est une action définitive, achevée par Dieu. Je dis cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. La Vierge Marie est une créature admirable, créature choisie, élue de Dieu, et elle est, nous le savons, la Mère de Dieu. C'est le titre principal qui définit le mieux la Vierge Marie. Tout son être, tout ce qu'elle est ordonné à cette maternité divine qui était définie, vous savez, au Concile d'Éphèse en 431. C'est le premier titre qui apparaît dans les litanies, vous dites régulièrement, et celui que nous redisons dans la prière de l'Ave Maria, Sainte Marie, Mère de Dieu. Celui que rien ne peut contenir s'enferme dans le sein virginal de Marie. Elle porte celui qui porte tout. Elle met au monde le plus beau des enfants des hommes, la créature la plus sublime de toute la création, l'homme le plus parfait. Le Verbe Fils de Dieu s'unit en elle une nature humaine, faisant dériver sur cette nature humaine toute la sainteté divine en une profusion de grâce inimaginable. Et là, je ne parle pas de la nature de la Vierge Marie, je parle de la nature humaine de Jésus. Jésus, homme, est le pur rayonnement terrestre de la sainteté divine. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, Jésus est le Fils rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Dieu, le Fils, se cache dans le sein de sa mère, ignoré des hommes, porté par elle dans le secret jusqu'à ce qu'il soit révélé aux hommes. Je dis avec les saints, dit Père de Montfort, la divine Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et le divin monde de Dieu où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-Haut. Il a caché comme dans son sein son Fils unique et en lui tout ce qu'il y a de plus excellent et précieux. Oh, que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a faites en cette créature admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire malgré son humilité profonde. Fecit mihi magna qui potens est. Il a fait pour moi des grandes choses. Le monde ne les connaît pas parce qu'il en est incapable et indigne, dit Père de Montfort. Voyons maintenant un peu, dans une deuxième partie, la Vierge Marie en regard de la Sainte Trinité. Un des traits caractéristiques de la théologie de Saint-Louis-Marie, c'est de souvent présenter les thèmes qu'il aborde selon un regard trinitaire. Par exemple, dans un cantique, il présente l'homme pécheur. Il dit alors, l'homme pécheur vis-à-vis du Père, du Ciel, l'homme pécheur vis-à-vis de Jésus, le Fils, l'homme pécheur vis-à-vis de l'Esprit Saint. Vous voyez, souvent, il essaye de présenter les thèmes qu'il aborde en regard des trois personnes de la Trinité. En cela, il est proche d'une forme de théologie aussi plus récente qui fait ça. Par exemple, le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, fait ça à propos de l'Église. Présente l'Église par rapport au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, Montfort parle de Marie en la présentant en rapport avec chacune des personnes trinitaires. Vous aurez l'occasion de le lire. D'ailleurs, c'était même aujourd'hui, ceux qui ont fait la version longue. Alors, premièrement, la Vierge Marie, c'est le trésor du Père. Le Père, comme origine, se voit facilement attribuer l'œuvre de création, qui est action de toute la Sainte Trinité. L'être de Marie est relatif à celui de son Fils Jésus, car elle a déjà reçu de lui, dès le moment de la conception, le privilège d'être épargnée du péché originel. Ainsi, rien ne s'oppose plus à ce que Dieu déverse en elle tous ses trésors de grâce et de beauté. Cette perfection de l'humanité trouvée dans la Vierge Marie est une préparation à son rôle extraordinaire de Mère de Dieu. Rien de ce qui blesse et salit la nature humaine ne pourra donc être transmis à l'humanité parfaitement sainte de Jésus. Marie est par avance le pur reflet de la sainteté suréminente de son Fils, à qui elle donne la vie selon la chair, de qui elle reçoit la grâce et la sainteté parfaite en son âme, qui habille tout son corps de cette pureté divine. Jésus, dans le sein de Marie, parachève la sainteté de sa mère en l'inondant tout entière de la lumière et de la présence divine. Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mère. Il a fait un assemblage de toutes ses grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis. Elle est donc le trésor du Père. Mais elle est aussi la trésorière du Fils. Comment s'étonner dès lors du lien unique et perpétuel que le Verbe de Dieu, le Fils, contracte avec celle qui devient sa mère selon l'humanité? Cette union scellée dans la plus sublime charité est une union perpétuelle telle qu'il n'en existe pas d'autre sur la terre entre deux créatures. Marie n'est qu'en Jésus, qu'avec Jésus, que par Jésus et que pour Jésus. Je me tourne ici un moment vers vous, dit Saint-Louis-Marie, ô mon aimable Jésus, pour me plaindre amoureusement à votre divine majesté de ce que la plupart des chrétiens, même les plus savants, ne savent pas la liaison nécessaire qui est entre vous et votre sainte mère. Vous êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous et ne peut être sans vous. Autrement, elle cesserait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle plus parfaitement qu'en tous les anges et les bienheureux. Ah, si on connaissait la gloire et l'amour que vous recevez en cette admirable créature, on aurait de vous et d'elle bien d'autres sentiments qu'on n'a pas. Elle vous est si intimement liée qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu. Je dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de vous que la divine Marie, parce qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement que toutes vos autres créatures ensemble. Ce lien unique entre Marie et Jésus, exprimé dans l'image des divins cœurs, du cœur de Jésus, cœur de Marie entremêlés. Bon Vendéen, nous savons ce qu'il en est. La merveille qui paraît sous nos yeux est celle du rapport de Jésus avec sa mère. Lui, le Fils de Dieu fait homme, vit la plupart de sa vie terrestre, 30 ans, dans une humble soumission d'un fils aimant à sa mère. La vie de Nazareth, à l'instar du bienheureux Charles de Foucault, doit inspirer notre vie spirituelle dans l'exemple du divin maître, lui-même soumis à sa mère. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 années qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Voyez, en prenant Marie chez nous, en la prenant comme notre mère, en nous donnant à elle, qu'est-ce que nous faisons ? Ce que Jésus lui-même a fait, tout simplement. Comme on l'a dit, Jésus fait rayonner sur sa mère toutes les grâces de salut qu'il acquiert. Et comme c'est elle qui donne Jésus au monde, à Bethléem, mais n'oubliez pas aussi au Golgotha, ce sont tous les bienfaits divins pour l'humanité que le Seigneur fait passer par elle en vue du salut. Avec toute la tradition de l'Église, Saint Louis-Marie voit en Marie le canal qui porte au monde les eaux de la grâce divine, le fameux aqueduc de Saint Bernard. Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, commencé par l'Immaculée Conception, vous le savez, qui vient de la mort de Jésus sur la croix. Marie est la première sauvée par anticipation du sacrifice de la croix. Donc, qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables. Et il l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc, par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Et les deux qualificatifs sont importants, les deux adverbes, doucement et abondamment ses miséricordes. Elle est donc la trésorière du Fils, mais elle est aussi la dispensatrice du Saint-Esprit. Cette fécondité que Marie tient des mérites de son Fils, elle la met en œuvre par le Saint-Esprit, dont elle est déjà saisie au jour de l'Annonciation, pour devenir le temple de Dieu, prise dans l'ombre et la nuée divine, comme jadis dans l'Ancien Testament. Il est beau ce mot aussi, de l'Annonciation. C'est un vieux mot français, vous le connaissez, « obombré », « l'obombration ». La Vierge Marie est prise dans l'ombre de Dieu. Comme jadis, la présence de Dieu se révélait par la nuée au désert. Et vous vous souvenez peut-être de ce passage dans l'Ancien Testament où Salomon construit le temple et organise une grande fête de la dédicace. Et là, tout le monde constate, la nuée de Dieu rentre dans le temple, prend possession du temple. Dieu habite parmi nous, Dieu habite au milieu de son peuple. Eh bien, c'est ce même mot qui est employé dans le récit de l'Annonciation pour dire que la Vierge Marie devient le temple vivant de Dieu sur la terre. Tabernacle du Seigneur, dit le pape Jean-Paul II. Voyez, saisie par cette présence divine, elle est ce temple saint. Dieu n'a jamais eu un temple aussi saint, aussi beau pour habiter au milieu des hommes que celui de Notre-Dame. Elle tient sa fécondité de l'esprit. La présence de Dieu en elle, oui, lui assure la présence des grâces divines aussi, bien sûr, qui accompagnent cette présence de Dieu. Et elle tient sa fécondité de l'Esprit qui lui offre la possibilité d'être mère tout en gardant sa virginité consacrée au Seigneur. Les auteurs spirituels et le Père de Montfort, à leur suite, osent la nommer l'épouse de l'Esprit-Saint. Et l'expression doit être comprise dans le sens d'une union indissoluble entre l'âme de Marie et l'Esprit Saint qui y fait sa demeure pour l'enrichir sans cesse des dons divins en une admirable sainteté et un inépuisable trésor de grâce prête à être déversé dans les âmes des fidèles. En cela, elle n'est que le relais de l'Esprit, le lieu où trouver l'Esprit assurément pour en recevoir tous les bienfaits. C'est le mystère de la volonté divine d'avoir choisi Marie comme dispensatrice des biens divins. Dieu le Saint-Esprit, dit Saint Louis-Marie, a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales. Car telle est la volonté de Dieu qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée jusqu'au fond du néant par sa propre humilité pendant toute sa vie. Voilà les sentiments de l'Église et des saints-pères. Et ça, c'est très important. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi que nous honorons la Vierge Marie à cette place. Pas parce qu'on dit ben, la Vierge Marie c'est sympathique et puis c'est une image de la mère et que je ne sais quoi. Non, Dieu l'a placée là, à cette place. Il aurait pu faire autrement. Oui, bien sûr. Dieu aurait pu nous sauver différemment. Il aurait pu venir parmi nous différemment. Mais tout est passé par elle parce que en nous donnant son Fils, le Père nous donne tout. Qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus que son Fils? Impossible. Donc, il nous donne tout par la Vierge Marie. Et justement, pour que soit mieux magnifiée la puissance, la miséricorde et l'amour de Dieu, il passe par la plus humble et la plus petite des créatures, la plus effacée, la plus silencieuse, la plus cachée. Quelle merveille, la grâce de Dieu qui passe justement par la Vierge Marie. C'est pourquoi, au départ, elle a été cachée pour que soit mieux mise en valeur, comme le disait le Père de Montfort, le Fils lui-même. Mais aujourd'hui, dans ces temps qui sont les nôtres, en redécouvrant le visage, la figure de la Vierge Marie, alors nous entrons plus avant dans ce mystère de la miséricorde de Dieu dévoilé par elle. Elle nous renvoie encore plus, de manière encore plus admirable, à cette merveille de la tendresse de Dieu pour le monde et pour les pécheurs particulièrement. Les conséquences en sont simples. Plus nous nous réfugions en Marie, plus nous y trouvons l'Esprit Saint et plus nous grandissons en sainteté en recevant les grâces de Jésus par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole. Il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. Le règne de Jésus, c'est une autre manière de le dire, que vient de dire le Père de Montfort, le règne de Jésus viendra par le règne de Marie. Pas ce qu'on dit à Fatima. Non ? C'est pourquoi plus l'Esprit Saint trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, ajoute Saint Louis-Marie, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme et cette âme en Jésus-Christ. Vous avez compris la logique. Troisième partie de ce soir, la place de Marie dans le plan de salut divin, on l'a déjà un peu abordé. Premièrement, d'abord, il y a une expression du Père de Montfort qui, me semble-t-il, synthétise toute sa pensée sur la place et le rôle de Marie dans le plan divin de salut. Il dit que Marie est un aimant sacré. Un aimant sacré. Elle attire les personnes divines qui aime reposer en elle comme dans le lieu le plus saint de toute la création, dans le désir qu'elles ont de s'unir avec les hommes, comme nous l'avons déjà dit. Cette attirance pour Marie peut être déclinée pour chacune des personnes de la Trinité, nous l'avons vu, mais c'est pour Jésus, sagesse éternelle, qu'elle nous apparaît le plus clairement, en raison bien sûr de la maternité divine de Notre-Dame, dans l'amour de la sagesse éternelle. Marie est l'aimant sacré qui, étant dans un lieu, y attire si fortement la sagesse éternelle qu'elle n'y peut résister. Cet aimant l'a attiré sur la terre pour tous les hommes et il l'attire encore tous les jours dans chaque particulier où il est. Si nous avons une fois Marie chez nous, nous avons facilement et en peu de temps, par son intercession, la divine sagesse. Vous verrez par exemple, à la fin du traité de la vraie dévotion, le père de Montfort donne une méthode pour bien communier à la messe. Et dans cette méthode, vous verrez, c'est quoi ? C'est d'invoquer la Vierge Marie, parce que moi je ne suis jamais digne de recevoir le Seigneur. Mon péché me taraude, mon péché est là, mon péché me rend impur vis-à-vis de Dieu. Alors j'appelle la Vierge Marie, qu'elle vienne en moi et qu'elle attire le Seigneur en moi, pour que le Seigneur se complaise en moi. Vous voyez, c'est une manière de prier, d'accueillir le Seigneur dans la Sainte Eucharistie, en demandant à Marie de l'accueillir pour nous et en nous, pour que le Seigneur s'y sente plus à l'aise, d'une certaine manière. Vous voyez ? Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de la dévotion du Père de Montfort. Tout faire, tout vivre en Marie, par Marie, avec Marie. La dévotion proposée par Saint Louis-Marie est finalement, vous le voyez, une vie avec Marie, de sorte qu'en la trouvant et vivant sans cesse avec elle, nous soyons sûrs de trouver Jésus, de vivre en permanence en sa présence. Autrement dit, plutôt que de s'appuyer sur nos propres forces pour chercher Jésus, le trouver et le conserver dans notre vie, mieux vaut se confier à Marie, cheminer avec elle, nous mettre sous sa protection, vivre en sa présence, ce qui nous assurera plus sûrement de vivre des grâces de notre baptême, parce qu'alors c'est elle qui va attirer chez nous, vers nous, la présence de Dieu. Marie est de tous les moyens pour avoir Jésus-Christ le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus saint. Pourquoi est-ce que c'est le plus assuré ? Car avec elle, on ne risque pas de se fourvoyer en des voies trop personnelles et donc fragiles, car c'est le chemin de Jésus lui-même. C'est un chemin emprunté par nombre de saints dans l'histoire. Car là où est Marie, le malin, le démon n'est pas. C'est un chemin aisé, car demandant seulement d'imiter Notre-Dame en ses vertus, chemin doux qui rend les obstacles plus faciles à franchir et les croix, comme je vous le disais, plus faciles à porter. C'est un chemin court, car elle nous met en prise directe avec Jésus et nous évite d'errer ou de nous égarer. C'est enfin un chemin saint, où le Père de Montfort dit dans le Vrai Dévotion, un chemin parfait, car Marie est la plus sainte des créatures par qui Jésus est venu vers nous et par qui les petits se laissent façonner et conduire à Jésus. Quand nous ferions, dit Saint Louis-Marie, les plus effroyables pénitences, quand nous entreprendrions les voyages les plus pénibles et les plus grands travaux, quand même nous répandrions tout notre sang pour acquérir la divine sagesse, et que l'intercession et la dévotion de la Sainte Vierge ne se trouvât pas en tous ces efforts, il serait inutile et incapable de nous l'obtenir. Mais si Marie dit un mot pour nous, si son amour se trouve chez nous, si nous sommes marqués à la marque de ses fidèles serviteurs qui gardent ses voies, nous aurons bientôt et à peu de frais la divine sagesse. En fait, c'est un truc de feignant, cette dévotion. La Vierge Marie, donc, est non seulement l'aimant sacré qui attire le Seigneur, mais elle est aussi la mère du Christ total. La Vierge Marie n'est pas seulement la mère de Jésus, elle est aussi la mère de tous ceux qui constituent son corps mystique. Ce n'est pas une idée de Saint Louis-Marie. Il la reprend largement dans, par exemple, Saint Augustin, qui parle du totus Christus, du Christ total. Pour le docteur de la grâce, Saint Augustin, le Christ total est composé du Christ et de son Église, en tant qu'il est tête du corps dont nous sommes les membres. C'est ainsi que Marie n'enfante pas seulement la tête, mais aussi le corps. Paul VI, pendant le Concile Vatican II, a déclaré Marie mère de l'Église, entérinant une réalité décrite par toute la tradition mystique. Remarquez, dit Saint Louis-Marie, que non seulement Marie est la mère de Jésus, le chef de tous les élus, mais encore elle est la mère de tous ses membres, en sorte que c'est elle qui les engendre, les porte dans son sein et les met au monde de la gloire, par les grâces de Dieu qu'elle leur communique. C'est la doctrine des saints pères et entre autres de saint Augustin qui dit que les élus sont dans le sein de Marie et qu'elle ne les met au monde que lorsqu'ils entrent dans la gloire. Se laisser enfanter à la grâce par Marie, c'est naître assurément dans la suite et la lignée de Jésus-Christ pour lui ressembler en toute chose, lui qui est le premier-né d'une multitude. Une même mère, dit encore Saint Louis-Marie, ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de la nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Puisque Marie a formé le chef des prédestinés, qui est Jésus-Christ, c'est à elle aussi de former les membres de ce chef qui sont les vrais chrétiens. Car une mère ne forme pas le chef sans les membres, ni les membres sans le chef. Quiconque donc veut être un membre de Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, doit être formé en Marie par le moyen de la grâce de Jésus-Christ, qui réside en elle en plénitude, pour être communiqué en plénitude aux vrais membres de Jésus-Christ et à ses vrais enfants. En plagiant une expression de Saint Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle, le père de Montfort ajoute « Il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. » Cyprien disait « On ne peut pas avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. » Le père de Montfort lui dit « Il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. » Elle est aussi, Notre-Dame, la médiatrice de toute grâce. Marie est tellement unie à Dieu en tout par la volonté et tout son être qu'elle ne veut que ce que Dieu veut. Elle est transparence à la grâce divine, tant pour nous la transmettre que pour intercéder auprès du Seigneur, c'est-à-dire de manière descendante, de manière ascendante. On peut dire qu'elle ne fait qu'un par la volonté avec son Seigneur. En lui confiant notre vie, toutes nos entreprises, nous voulons qu'elle présente tout au Seigneur selon ce qui sera le mieux et le plus conforme à la volonté de Dieu, purifiant ce qui mérite de l'être. Elle raconte une histoire charmante, vous verrez, c'est dans la vraie dévotion numéro 147, Père de Montfort raconte l'histoire de ce pauvre paysan qui doit aller voir son roi, qui n'avait qu'une pomme véreuse à le donner au roi. Alors s'il y va de lui-même, il lui donne ça, le roi n'a pas trouvé ça génial. Et alors il dit, il va voir la mère du roi, puis il dit, vous ne pouvez pas m'arranger l'affaire. Alors donc il lui donne la pomme véreuse, et la mère du roi, elle met ça dans un beau plateau en or, elle arrange la pomme, elle enlève le verre, elle fait tout ce qu'il faut bien pour tout ça, et elle vient présenter ça dans un beau plateau en or avec des fleurs, etc. Et le roi est ravi de l'offrande de la mère, vous voyez. Enfin, c'est une charmante image du Père de Montfort pour nous montrer comment, en présentant la Vierge Marie toutes nos intentions, elle laissait les embellir, les présenter au Seigneur de manière favorable. Et puis Jésus, il craque toujours quand c'est la Sainte Vierge, sa maman, qui lui présente les choses. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire passer par la Sainte Vierge. Marie, étant infiniment au-dessous de son Fils, qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant qui est au-dessous d'elle. Marie étant toute transformée en Dieu par la grâce et la gloire qui transforment tous les saints en lui, ne demande, ne veut, ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. L'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elle passe toujours pour des commandements auprès de sa majesté qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Jésus est l'unique médiateur, entendons-nous bien, Père de Montfort le rappelle. Et c'est l'Écriture sainte qui nous le dit, regardez dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Mais il semble que Marie ne soit plus accessible pour aller au médiateur même, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est bien ce que font les serviteurs de la noce à Cana, pour que Marie demande à Jésus de faire un miracle. Pas Marie qui fait le miracle, c'est Jésus qui intervient. Mais c'est Marie qui va lui demander de faire le miracle. Et même si ce n'est pas son heure, le Seigneur le fait quand même. C'est Marie qui est le plus à même de toucher le cœur de son Fils. Disons donc hardiment avec saint Bernard que nous avons besoin d'un médiateur auprès du médiateur même et que la divine Marie est celle qui est la plus capable de remplir cet office charitable. C'est par elle que Jésus-Christ nous est venu et c'est par elle que nous devons aller à lui. Si nous craignons d'aller directement à Jésus-Christ, ou à cause de sa grandeur infinie, ou à cause de notre bassesse, ou à cause de nos péchés, implorons hardiment l'aide et l'intercession de Marie, notre mère. Elle est bonne, elle est tendre. Il n'y a en elle rien d'austère ni rebutant, rien de trop sublime et de trop brillant. En la voyant, nous voyons notre pure nature. Elle n'est pas le soleil qui, par la vivacité de ses rayons, pourrait nous éblouir à cause de notre faiblesse, mais elle est belle et douce comme la lune qui reçoit la lumière du soleil et la tempère pour la rendre conforme à notre petite portée. Elle est si charitable qu'elle ne rebute personne de ceux qui demandent son intercession, quelque pécheur qu'il soit. Car, comme disent les saints, il n'a jamais été ouï dire, depuis que le monde est monde, qu'aucun ait eu recours à la Sainte Vierge avec confiance et persévérance et en été rebuté. C'est une allusion, évidemment, souvenez-vous. Elle est si puissante que jamais elle n'a été refusée dans ses demandes. Elle n'a qu'à se montrer devant son Fils pour le prier. Aussitôt il accorde, aussitôt il reçoit. Il est toujours amoureusement vaincu par les mamelles et les entrailles et les prières de sa très chère mère. Une manière un peu de l'époque d'exprimer les choses qu'on dirait plus aujourd'hui comme ça probablement. Voilà. Quatrièmement, dernière partie de cet exposé de ce soir, il faut que nous nous laissions fondre dans le moule divin. Nous avons vu comment Marie est élue par Dieu, comblée de grâce pour une mission singulière, celle d'être la mère de Dieu venue en ce monde. Ainsi, elle reçoit par la même occasion une mission vis-à-vis de ceux que son Fils a rachetés pour les enfanter avec lui à la grâce, n'étant que le canal de cette grâce qui vient tout entière de Jésus. En quoi, finalement, la dévotion du Père de Montfort est-elle originale? Et comment nous conforme-t-elle à Jésus-Christ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Premièrement, la transparence de l'Immaculée. Tout d'abord, il faut répéter que la Vierge Marie n'est pas un obstacle à la rencontre de son Fils. Loin s'en faut, puisqu'elle n'a de cesse de nous le donner, de s'effacer elle-même pour que Jésus règne pleinement en nos âmes. Elle ne garde jamais rien pour elle, ne s'attribue rien, mais ne sait que donner à l'exemple même de Dieu. Vous savez, Dieu, il ne sait pas prendre. Il ne sait pas ce que c'est Dieu prendre. Il donne. Il donne. Il se donne. Il ne sait pas ce que c'est prendre Dieu. Et la Vierge Marie, qui est la plus parfaite des créatures, eh bien, elle est dans l'imitation parfaite de Dieu. Elle donne. et elle donne ce qui lui vient de Dieu. Elle se fait oublier pour que seul son Fils règne en tous et toutes choses. Dans le secret de Marie. Qu'on ne s'imagine donc pas, avec quelques faux illuminés, que Marie étant créature, elle soit un empêchement à l'union au Créateur. Ce n'est plus Marie qui vit, c'est Jésus-Christ seul, c'est Dieu seul qui vit en elle. Sa transformation en Dieu surpasse plus celle de saint Paul et des autres saints que le ciel ne surpasse la terre en élévation. Marie n'est faite que pour Dieu, et tant s'en faut qu'elle arrête une âme à elle-même qu'au contraire, elle la jette en Dieu et l'unit à lui avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage à elle. Marie est l'écho admirable de Dieu, qui ne répond que Dieu lorsqu'on lui crie « Marie », qui ne glorifie que Dieu lorsqu'avec sainte Élisabeth, on l'appelle bienheureuse. Si les faux illuminés qui ont été si misérablement abusés par le démon jusque dans l'oraison avaient su trouver Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes. Quand on a une fois trouvé Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes. Qui dit tout n'accepte rien. Toute grâce et toute amitié auprès de Dieu, toute sûreté contre les ennemis de Dieu, toute vérité contre le mensonge, toute facilité et toute victoire contre les difficultés du salut, toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie. Et enfin, disons que Marie est, selon une expression de saint Augustin que reprend Père de Montfort, Forma Dei. La Vierge Marie donne à Dieu le Fils sa forme humaine. En son sein virginal, il reçoit Jésus, sa nature humaine. Marie a été préparée par l'Esprit Saint pour accueillir le Verbe de Dieu. Elle en est toute illuminée et sanctifiée, non seulement en son corps, mais plus encore en son âme. Le Fils habite en elle et a voulu être formé par elle en son humanité. Saint Louis-Marie l'appelle donc, comme je vous le disais, Forma Dei, ce qu'il traduit, le moule de Dieu. Ce que Montfort exprime poétiquement à travers cette comparaison du moule, c'est que Marie a été formée par l'Esprit Saint comme parfaite image de Dieu pour être ce moule où l'humanité du Christ sera formée en perfection, c'est-à-dire sans contamination du péché, sans obscurcissement, car la pauvreté et l'esclavage bien compris ne sont pas pour lui, nous verrons, un obscurcissement, une déchéance de l'être. Mais Marie est aussi en creux, suivez-moi bien, ajoute-t-il Père de Montfort audacieusement, celle qui, ayant reçu Dieu en personne, reste l'empreinte de Dieu, où nous pouvons être formés à notre tour à l'image de Dieu, l'image de son humilité proportionnée à la nôtre. Il rejoint ici la tradition qui appelle Marie type de l'Église et de toute âme chrétienne. Vous voyez, Jésus est passé dans la Vierge Marie, elle a moulé, si je puis dire comme ça, Jésus dans son humanité, et ce moule y reste intact. Et donc nous, en nous jetant en Marie, nous sommes moulés à l'image de Jésus. C'est une image évidemment spirituelle, vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc nous sommes en elle et par elle configurés à Jésus. Se jeter en Marie pour être moulé en elle, c'est être configuré à Jésus qui est passé par elle. C'est rejoindre l'humilité et la pauvreté de Dieu le Fils qui se laisse façonner par elle pour prendre notre humanité. Marie nous proportionne, si vous voulez, spirituellement à Jésus. C'est en elle que se réalise l'union de la divinité, du Verbe de Dieu, avec notre humanité. Et le Père de Montfort postule également que c'est en elle que doit se réaliser l'union de notre humanité à nous avec la divinité de son Fils Jésus. C'est en elle que se rejoignent l'humanité et la divinité, dans cette communication qu'on appelle des natures ou des idiomes en Jésus. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Dans notre humanité, nous sommes appelés à participer de la divinité. Et c'est en Marie que nous sommes moulés à l'image de Jésus pour mieux accueillir, c'est spirituel évidemment, pour mieux accueillir la grâce divine qui vient en nous, qu'elle nous transfigure, qu'elle nous configure à Jésus. Nos orientaux parlent du fait d'être christifiés. Nous sommes christifiés. Et même ils disent nous sommes divinisés. Quand on dit sanctifié, on a toujours un peu peur. On dit oui, ben on est sanctifié, très bien. Mais divinisé, on aime moins bien dire qu'on est divinisé. Mais en fait, on dit exactement la même chose. Parce que Dieu seul est saint. Être sanctifié et divinisé, c'est pareil. Alors on n'est pas calife à la place du calife, entendons-nous évidemment. Mais on participe de la divinité du Seigneur. On entre dans cette divinité, dans cette sainteté de Dieu. Et c'est en Jésus, à travers la médiation du Verbe de Dieu, en Marie et par Marie, que nous sommes peu à peu configurés à Jésus pour vivre de cette présence de Dieu en nous, être complètement transformés dans cette présence. Ça va, c'est pas trop compliqué. Marie est appelée par saint Augustin, dit saint Louis-Marie, et est en effet... Alors sur le manuscrit, c'est amusant parce qu'il a fait une erreur sur le manuscrit. Il dit elle est en effet le monde vivant de Dieu. Il l'a mis comme ça. Toute la suite montre qu'il voulait mettre le moule vivant de Dieu. Et c'est intéressant. Il a mis le monde vivant de Dieu, ce qui est vrai aussi. Forma Dei, c'est-à-dire que c'est en elle seule que Dieu fait homme, a été formé au naturel, sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité. Et c'est aussi en elle seule que l'homme peut être formé en Dieu, au naturel, autant que la nature humaine en est capable par la grâce de Jésus-Christ. Il explique. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel de deux manières. Premièrement, comment est-ce qu'il peut faire ? Se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure en une matière dure et informe, sculpteur. Et deuxièmement, il peut la jeter en moule. Voilà. Il y en a qui comprennent ce que ça veut dire ici. Ils sont mariés avec des sculpteurs. Voilà. Alors, donc il y a deux manières de faire. La première, de sculpter, dit Père de Montfort, est longue et difficile et sujette à beaucoup d'accidents. Il ne faut souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter tout l'ouvrage. C'est vrai. La seconde, faire un moule et jeter dans le moule, est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coutage, comme ils disent, un vieux mot, pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien malléable, ne résistant aucunement à sa main. Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit pour former au naturel un homme-Dieu par l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union selon la personne divine des deux natures, humaine et divine, Jésus, et pour former un homme-Dieu par la grâce, c'est-à-dire que nous soyons formés pour être divinisés. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce, est proportionné à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie et de travaux, d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Voilà, vous avez maintenant un peu mieux saisi cette idée du Père de Montfort, du moule de Dieu. Il faut nous laisser mouler pour ressembler à Jésus, nous laisser mouler en Marie. C'est en elle que Jésus nous rejoint, puisqu'elle forme non seulement la tête du corps, mais aussi les membres. En elle, nous pouvons acquérir les mêmes, en quelque sorte, les mêmes gènes, le même ADN spirituel que sont ceux de Jésus, en nous laissant façonner à son image. Dieu le Fils veut se former et, pour ainsi dire, s'incarner tous les jours par sa chère mère dans ses membres. En clair, nous atteignons ainsi plus facilement la sainteté qui consiste à être sanctifié, christifié, je vous le disais, en un mot divinisé, puisqu'il s'agit bien de cela. Celui qui est jeté dans ce moule divin, dit Saint Louis-Marie, est bientôt formé en Jésus-Christ et Jésus-Christ en lui. À peu de frais et en peu de temps, il deviendra Dieu, avec un petit dé, hein, puisqu'il est jeté dans le même moule qui a formé un Dieu. J'en arrive à la conclusion. Vous comprenez comment la dévotion de Saint Louis-Marie ne consiste pas tant en pratiques extérieures, qui sont bonnes et nécessaires, qu'en un état d'esprit, une disposition permanente de l'âme à s'unir à Marie pour se laisser façonner spirituellement par elle et ressembler finalement à son Jésus. C'est pourquoi il est si nécessaire de toujours approfondir les textes du Père de Montfort et d'en tirer progressivement, et selon le rythme de chacun, tout le suc spirituel qui me permettra de grandir en sainteté. Quelqu'un qui m'a dit cette semaine, il y a tellement de choses que je me sens complètement noyé, j'ai pas le temps d'assimiler, j'ai pas le temps d'acquérir tout ça. Je dis, mais c'est pas grave, vous avez toute votre vie. Là, on accumule, mais justement, c'est tout un état d'esprit, la dévotion que propose le Père de Montfort. Et c'est justement dans ce renouvellement, chaque année, on refait les 33 jours, alors on les fait de manière light, et puis vous n'êtes pas obligé de tout reprendre, mais prenez des aspects, relisez un écrit du Père de Montfort, vous voyez, à vous de faire un peu chaque année, voilà ce que vous sentez que vous pouvez faire, mais en tout cas pour entretenir cet esprit, pour entrer toujours plus dans le sens de cette dévotion, de cette consécration. Moi, il y a plus de 30 ans, 32 ans que je l'ai faite, mais je découvre toujours. Puis en fait, le fait aussi de devoir vous la présenter, l'expliquer, ça m'aide beaucoup en fait à découvrir des aspects nouveaux. Et je suis plein de joie justement de redécouvrir plein de choses, plein de belles choses. Et vous voyez, on prend ce qu'on peut prendre au moment où on le prend. Peu importe, cherchez pas à vous dire je veux tout comprendre, tout savoir. Non, c'est pas grave. C'est le Seigneur nous conduit dans cette consécration progressivement et il vous éclairera au moment où il le faut pour que vous saisissiez un nouvel aspect qui va vous combler, qui va vous aider à approfondir, à aller plus loin, à être plus encore à Marie pour être plus à Jésus. Voyez. Donc, ne vous inquiétez pas, chacun va à son rythme. Le Seigneur respecte le rythme de chacun. Donc, comme je vous le disais, tous les ans, à la même époque, il est très bon et utile de refaire la préparation des 33 jours, alors de manière adaptée, encore une fois, et éventuellement même allégée, pour renouveler la consécration. C'est pour ça que ce livre est un manuel. Si vous le mettez dans votre bibliothèque, ça ne sert à rien. C'est un manuel, il faut l'utiliser, il faut qu'il soit abîmé. S'il n'est pas abîmé, il y a un problème. Voilà. Pas obligé de l'abîmer quand même. C'est également de cette manière que peu à peu, vous voyez, on entre dans le véritable esprit et secret, comme dit le Père de Montfort, de la consécration à Jésus vivant en Marie. Et je conclus en citant le traité de la vraie dévotion, numéro 257. Outre les pratiques, il a parlé avant des pratiques extérieures qu'on peut faire, dire le chapelet, mettre des chaînes, etc. Enfin, voilà. Outre les pratiques extérieures qu'on vient de rapporter, lesquelles il ne faut pas omettre par négligence ni mépris, autant que l'état et condition de chacun le permet. Vous voyez, le Père de Montfort, il est très cool. Hein. Il impose rien de trop rigoureux. Voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint-Esprit appelle à une haute perfection. C'est en quatre mots. De faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie, et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus. Merci de votre patience. Alors, cette semaine, pour prendre une description de la semaine, ceux qui ont commencé déjà, vous avez vu. La semaine, évidemment, est essentiellement consacrée, donc, comme on l'a dit, à mieux connaître la Sainte Vierge. C'est pourquoi, cette semaine, nous allons mettre entre parenthèses l'imitation de Jésus-Christ. Chaque jour, vous l'avez vu, c'est beaucoup plus court, apparemment. Parce qu'il y a juste les textes des évangiles de l'enfance, sauf le dernier jour, il y a les noces de Cana, de mémoire. Donc, il y a les textes de l'évangile de l'enfance, de Saint-Luc, qu'on lit tranquillement toute la semaine, ça, c'est pas très long. Et puis, chaque jour, nous lisons, pour ceux, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font la version longue, nous lisons le traité de la vraie dévotion à Marie, nous allons le lire tout entier, et même le secret de Marie les deux derniers jours. Et ceux qui font la version brève, vous lisez le secret de Marie, étalé sur toute la semaine, qui est une synthèse, je vous l'ai dit, du traité de la vraie dévotion. On a toujours les litanies du Saint-Esprit, vous voyez comme c'est important, mais maintenant vous avez compris pourquoi le Père de Montfort il fait tant appel au Saint-Esprit, parce que appeler le Saint-Esprit, prier la Vierge Marie, c'est, d'une certaine manière, c'est tout. Et puis, je voulais vous dire aussi ça, il conseille de dire le chapelet. À ce niveau-là, alors j'ai remis ça, vous avez vu qu'il y a une méthode pour dire le chapelet selon le Père de Montfort, que j'ai un peu arrangé. J'ai pas arrangé ce qu'a dit le Père de Montfort, mais comme depuis il y a les mystères aussi lumineux, notre Saint-Père, le Pape Saint Jean-Paul II nous a donné, donc j'ai bricolé les mystères lumineux, j'ai essayé de le faire dans l'esprit du Père de Montfort. Donc regardez, c'est pas du Père de Montfort évidemment, parce que ça n'existait pas de 100 ans, mais j'ai essayé de le faire dans le même esprit que celui le reste. Donc vous pouvez vous inspirer de ça. Si certains d'entre vous ne dites pas tout le chapelet, vous en avez déjà parlé de ça, mais si vous ne dites pas tout le chapelet, ben, c'est pas grave, vous n'en faites pas une obligation absolue et que ça vous prenne la tête. Dites déjà, commencez par dire une dizaine chaque jour. Dites une dizaine chaque jour. Une dizaine, c'est 3 minutes, hein. Donc ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Une dizaine chaque jour, en méditant, 3 ou 4, bon, si on veut, ça dépend à quelle vitesse on va. Donc, dites une dizaine chaque jour. Vous voyez, et mettez bien cette dizaine en place, mais en méditant un mystère chaque jour, comme on le dit là, comme vous avez dans la méthode, pour dire le chapelet. Donc, dites cette dizaine chaque jour. Et puis, quand vous aurez bien mis cette dizaine en place, dans quelques mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, s'il faut, peu importe. Vous pouvez vous dire, ça y est, maintenant, je la dis toujours, je manque jamais, tous les jours, je dis ma dizaine. Eh bien, vous en dites une deuxième. Et puis, si dans 6 mois, 1 an, après, de nouveau, c'est bon, eh bien, vous dites, là, je manque jamais, je dis toujours ma dizaine, chaque jour, mes 2 dizaines. Eh bien, vous en rajouterez une troisième. Puis, petit à petit, vous pourrez dire tout votre chapelet, vous voyez ? Ce que je vous disais l'autre jour, à 120 ans, vous pourrez peut-être dire tout le rosaire. Voilà. Ou peut-être plusieurs, ça dépend du temps qu'on met. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, faites ça. D'autre part, si vous dites votre chapelet, vous dites moi le chapelet comme ça, à dire à la suite, j'y arrive pas parce que je suis occupé, j'ai d'autres choses, etc. C'est pas grave. Vous pouvez morceler le chapelet, dites une dizaine de temps en temps dans votre journée. Essayez de ne pas couper les dizaines, en revanche. Ça, c'est mieux. Mais dites une dizaine de temps en temps dans votre journée. Voilà. Et puis, pensez, ayez le réflexe. Quand vous vous promenez dans la rue, vous ne savez pas quoi faire, etc., ou vous êtes en voiture, etc., ben dites le chapelet. Vous avez du temps. Oui, mais ce n'est pas idéal, on ne peut pas venir dans la voiture parce qu'on veut. Ben, ok, d'accord, mais il y a des gens, c'est tellement jamais idéal qu'ils ne font rien. Donc, ouais. Donc alors, ben, voilà, comptez les distances en dizaines de chapelets. Vous voyez ? Comptez les distances en dizaines de chapelets. Donc, petit à petit, ça va rentrer comme ça. Et puis, vous allez entrer dans cet esprit. Voilà. Vous voyez, il faut trouver, il faut ruser. Mais ça permet d'entretenir ce cœur à cœur avec la Sainte Vierge Marie, de lui redire les paroles de l'Ave Maria. Très beau. Je n'ai pas mis dans le livre le secret admirable du Très Saint Rosaire, qui est un autre ouvrage important du Père de Montfort, parce qu'il n'avait pas un rapport direct, on va dire, avec les exercices spirituels. Mais si vous le trouvez un jour, c'est charmant à lire. Il explique tout le sens de l'Ave Maria, du Notre Père, du chapelet, tout ça, c'est très beau. Voilà, puis il raconte des tas de petites histoires de, voilà, avec Saint-Dominique, tout ça, c'est amusant. Voilà, si un jour vous avez l'occasion de lire Le secret admirable du très saint rosaire, mais il n'est pas dedans, je vous conseille de le lire. J'en ai fini. Vous avez peut-être des questions en revanche. Tout est clair. Bon, courage. Alors, par contre, aujourd'hui, pour ceux qui font la version longue, là, cette semaine, il faudrait un petit peu plus de temps. Pas tant que ça. Hein. Vous pouvez. Une demi-heure pour lire le traité de la vraie dévotion. Hein? Voilà, vous voyez, une demi-heure. Une demi-heure pour lire le traité en version longue. Hein.
Quelqu'un commence à 7h ce matin et finit à 11h. Donc c'est,
ça va. Tout va bien.
C'est exagéré.
Bonne semaine.